Chapitre 19. La pierre de l'arbre. Elle n'avait rien de magique. Elle ne donnait ni la jeunesse éternelle, ni l'intelligence. Elle ne rendait pas invincible ou invisible. Elle ne permettait pas de voir au travers d'un mur, d'une robe ou d'un cerveau. Elle ne faisait pas voler, parler aux insectes, crier des phrases comme « La force de l'arbre est avec moi ». Elle ne se transformait pas en lutin sautillant, en fille pulpeuse, en épée, en dragon, en lampe ou en génie. Son seul pouvoir venait de son prix. La pierre de l'arbre coûtait très très cher, point à la ligne. Elle coûtait cher parce qu'elle était rare. C'était la seule pierre de tout l'arbre. Elle était gardée sous la salle du conseil, prise dans une nervure du bois. Depuis toujours, elle se trouvait là. Elle appartenait à l'arbre. Le conseil était chargé de la surveiller. Le but était simple. La pierre garantissait que l'arbre serait toujours le plus riche et que personne ne prendrait jamais le pouvoir sur lui. Elle était le trésor de l'arbre, l'assurance de sa liberté. « Mais elle n'a pas de prix !» s'exclama Sim. « Cher ami, dit Zef, notre amitié n'a pas de prix, ton fils non plus, mais la pierre en a un très précis. 4 milliards. Cette fois, il n'y eut pas un seul Lolnes pour sursauter ou s'évanouir. L'argent, c'était comme les 1000 cravates de Mano. Ça leur faisait une belle jambe. Voilà ce qui s'est passé. Pelou a convaincu Madame Alnorel que sa fortune était en danger et que des bandits risquaient de la lui dérober. Elle devait pouvoir la surveiller, s'asseoir dessus pour la garder. Alors, Pelou lui a dit d'acheter la pierre. « Acheter la pierre ?» répéta Sim, incrédule. Elle avait exactement 4 milliards et 25 centimes dans ses réserves. Le conseil a cédé. Madame Alnorel a acheté la pierre et s'est assise dessus. En grimaçant, Sim rendit au notaire la pierre qu'avait couvée sa belle-mère. Clarac continua. « Bien sûr !» Pelou est à la botte du gros Mitch. Il comptait récupérer la pierre quand la vieille dame mourrait. Mais Pelou et Mitch avaient oublié que Madame Alnorel aimait beaucoup l'argent. Énormément. Elle avait obéi à Pelou parce que la pierre faisait une taille raisonnable qui lui permettait de réaliser son plan. « Son plan ?» demanda Toby. Le lendemain du départ de Pelou, ta grand-mère a entendu un bruit. Elle a pensé que c'était les bandits qu'on lui avait fait redouter. Elle a pris sa pierre, elle a voulu l'avaler. Toby écarquilla les yeux. C'était ça son plan, jeune homme, emporter sa fortune dans son cercueil, avoir une fortune qui s'avale. Le bruit qu'elle avait entendu, c'était juste mon ami le docteur Peel qui venait tous les soirs lui piquer la fesse gauche. Force d'être assise sur la pierre, elle avait des douleurs terribles que le docteur soignait par des piqûres. Pile a entendu un bruit d'étouffement, il a forcé la porte. Trop tard. La pierre s'était coincée dans la gorge. Elle est morte sans souffrance. Zef fit une pause respectueuse. Le doc a retiré la pierre avec une pince à épiler. Il est venu me chercher. J'ai préféré régler discrètement l'affaire en vous prévenant. Sim était vraiment perplexe. Il mâchait nerveusement une boule de gomme. L'argent ne l'intéressait pas, mais l'arbre le préoccupait par-dessus tout. Laisser Mitch s'approprier la pierre, c'était lui donner tous les pouvoirs et condamner l'arbre à la pire destruction. Maya avait pris la pierre. Il fallait reconnaître que c'était quelque chose de très beau, comme une pelote de sève de la taille d'un gros bouton, parfaitement transparente, où toutes les couleurs alentour venait se baigner aussi joyeusement qu'une bande d'enfants qui s'éclaboussent. Toby s'approcha pour voir. Quelques minutes plus tard, ils avaient pris leur décision. Ils devaient repartir aussitôt. Personne ne saurait qu'ils étaient venus. Maître Clarac s'occuperait seul des obsèques de Madame Alnorel. On glisserait le cercueil dans le tube d'une plume, dans la tradition des grandes familles. Avec le docteur Peel, ils iraient la jeter au bout de la branche, à la nuit tombée. Une mort digne pour une vieille dame indigne. Le plan était simple. Quand Pelou Chatoun et Loche arriveraient le lendemain. Le notaire les accueillerait avec son bon sourire en leur disant que la vieille dame était morte en s'étouffant à cause d'un objet non identifié et que son corps devait actuellement planer au-dessus des nuages. Il ne parlerait pas de la pierre. Zef passerait sûrement un mauvais quart d'heure, mais comme il disait, qu'est-ce qu'un quart d'heure dans une vie? Les Lones devaient partir immédiatement, ne pas rester une minute de plus. Sim glissa la pierre dans sa poche. « Je ne vous demande qu'une chose, » dit Zef Clarac. « Passez chez moi. Je vous donnerai quelques provisions et vous ferez un brin de toilette, madame. »« Ouh là là !» pensa Sim avec indulgence. « Le charmeur de serpent part à l'attaque. Planquez-vous, les femmes et les enfants d'abord. » « Tu es gentil, mon bon Zef, » dit-il, de la voix la plus calme possible, « mais il faut qu'on y aille. Merci pour tout. »« S'il vous plaît, » insista Zef, « j'habite à deux branchettes d'ici. Faites-le pour moi. Vous ne pouvez pas repartir comme ça. »« Non, vraiment, » répéta Sim, qui commençait à s'agacer. Zef se tourna vers Maya. « Madame, puis-je vous demander de faire usage de votre autorité ?» « Ce ne serait pas sérieux, » répondit-elle. « Madame, madame. » Zef avait sorti ses deux dernières flèches. Elles touchèrent au but. Il serrait sa main sous son cœur, le regard plus vertigineux que jamais. Madame Lolness céda. Maya pensa, « Il est irrésistible. » Sim pensa, « Il est incorrigible. » Il recommença à mâcher sa boule de gomme. Il savait depuis toujours que Zef, avec ce charme maladif, le conduirait à sa perte. Ils sortirent donc, tous les quatre, après s'être inclinés une dernière fois devant la dépouille de Radégonde. Sim suivait d'un peu plus loin, entraînant les pieds. Le quartier avait beaucoup changé. C'était à l'origine un des plus beaux espaces des cimes, des fines branches bien aérées. Le terrain entre les maisons était maintenant gangréné, grouillant de gens affairés, avec de tous côtés des passages percés au hasard. Personne ne les remarqua vraiment, car personne ne remarquait personne. Le monde avait bien changé. « Les choses ne changent pas pour rien, » grognait Sim. Toby voyait sur les murs des affichettes « Pelé égale danger ». Ils arrivèrent rapidement chez Zef. La plaque notaire était bien là, astiquée de près. Maître Clarac chercha sa clé assez longtemps sous un fragment d'écorce. Il finit par la trouver. « C'est curieux. Je ne la mets jamais là, d'habitude. » Sim, qui n'avait pas vu la scène, continuait à bougonner. « Les choses ne changent pas pour rien. » Et il avait raison. Zef ouvrit la porte et rentra, suivi de Maya et de Toby. L'entrée se faisait par une petite pièce avec une seconde porte fermée. Ce devait être la salle d'attente du notaire. Sim était resté sur le paillasson et se frottait les pieds en plaisantant bien fort. « Je m'essuie les pieds, maître Clarac. Vous devriez mettre une plaque. » Zef, qui n'aimait pas trop qu'on parle de cette histoire de plaque, lui faisait signe de se taire. Mais Sim restait perché sur le paillasson. Zef, d'un geste, poussa Toby et Maya, qui ne comprenaient pas la plaisanterie du professeur. Il les fit rentrer dans le grand salon. Ils découvrirent alors cette scène que, des mois après, Toby mit 3 jours à peindre sur le mur de la grotte. Cette scène qui lui tira des larmes à chaque trait dessiné d'un doigt tremblant sur le bois. Il y avait beaucoup de monde dans le salon de Maître Clarac. 8 personnes en plus de nouveaux venus. Le premier, qu'on voyait parce qu'il écrasait la totalité du canapé sous son postérieur, c'était Jomitch. Quand il les vit entrer, il fit un sourire, ou quelque chose de proche. En tout cas, on vit une ou deux dents jaunes sur le côté derrière le mégot. Il fit aussi entendre un clapotement des bajoues, suivi d'un borborygme venu du fond de la gorge. Oui, ce devait être sa manière de sourire. Juste derrière le canapé, il y avait les 2 répugnants de service, Limmer et Thorne. Ils avaient pris quelques années depuis l'affaire Balaïna, mais l'avantage des têtes de cadavres, c'est qu'elles ne vieillissent pas. Un peu à droite, sur un fauteuil, M. Peloux avait les pieds qui ne touchaient pas le sol. Il ressemblait à un petit garçon trop sage qui aurait été moulé dans la cire. À côté de lui, Toby découvrit avec dégoût la silhouette de Tony Cyrano, l'assistant de Sim Lolnes, rouge de confusion. Il avait choisi son camp. Il était passé de l'autre côté. Enfin, de part et d'autre de la porte, deux ombres gracieuses encadraient déjà nos amis. Les avoir jamais vus, Toby reconnut aisément Chatoun et Loche. Chatoun se grattait le nombril avec un ongle de la taille d'une faucheuse. Loche avait entre les dents un bout de toile cirée ou d'imperméable. Le même imperméable que celui qui pendait au porte-manteau du salon, au fond à gauche, très en hauteur, un imperméable vert. Zef reconnut ce manteau accroché au mur. C'était celui de son ami, le docteur Peel. Pas difficile d'être sûr que c'était bien le sien, puisque le docteur lui-même pendait encore dedans, inconscient. Après un temps de silence, tout naturel entre des gens qui ne s'attendaient pas à se retrouver ainsi, Joe Mitch fit avec ses dents un assez long bruit de friture. Limmer s'empressa de traduire. « Je n'espérais pas vous trouver en si bonne compagnie, maître Clarac. C'est une surprise. »«
Et c'est une joie !» ajouta Peloux.
Mitch lâcha un « grrrr » qui ferma le bec à Peloux jusqu'à la fin de la conversation. Limmer reprit.
« Mais je crois qu'il y a aussi le professeur. Bonne nouvelle. Je ne voyais que la grognasse et le chiard. »
En effet, Sim était apparu derrière Maya, Toby et Zef. Plus tard, il se demanda s'il aurait mieux fait de s'enfuir avant qu'on ne remarque sa présence. Mais sur le moment, il ne pensa pas un instant abandonner sa femme et son fils. Il vint même se mettre devant eux et lança un regard noir à Tony Cyrano, qu'il venait de reconnaître. Limmer précisa. « Pour tout vous dire, on n'attendait personne d'autre que maître Clarac. Un de vos amis, le docteur Peel, vient tout juste de nous confier que Madame Alnorel est morte et que le notaire s'est chargé de ses affaires. » Zef regarda Peel, pendu par le col au porte-manteau. Il connaissait le doc. S'il avait avoué, c'était sous la plus infâme torture, et lui pardonnait déjà. Mais Zef tremblait d'horreur et de culpabilité d'avoir mené involontairement les Lolnes dans ce piège. On vous attendait donc pour savoir où trouver le corps et les affaires en question. Avec M. Peloux, on s'occupera de tout. Sim prit la parole. Le corps de ma belle-mère est dans la serre d'hiver. Il mérite le respect. Quant aux affaires, elles reviennent à ma femme qui est sa fille unique. Normalement, quand toute une salle se met à rire, il faut une joie céleste. C'est un avant-goût d'éternité. Mais quand les six acolytes de Joe Mitch éclatèrent de rire, Toby eut envie de se boucher les oreilles. C'est Joe Mitch lui-même qui fit taire sa basse-cour. Il demanda l'aide de Thorn et de Limmer pour se lever du canapé. Une poulie et un monte-charge n'auraient pas été de trop. Une fois debout, il était tellement épuisé qu'il lui fallut presque une minute pour retrouver son souffle. Il fit les quelques pas qui le séparaient du professeur et s'arrêta devant lui. Mitch le contempla fixement, comme s'il avait quelque chose sur le nez, puis, levant les doigts vers le visage de Sim, il attrapa ses nouvelles lunettes et les écrasa dans sa main. Mitch jeta les brisures de lunettes sur le sol, regagna le canapé et s'écroula dedans, soulagé. Sim n'avait pas bougé. Maya fermait les yeux. Une mince larme était dans le coin de son œil. Mais elle serrait les dents, en se répétant « Je ne dois pas pleurer, je ne dois pas pleurer. » La larme dut entendre son cri silencieux. Elle mit juste le nez dehors et disparut. Toby et Zef n'avaient pas quitté Sim des yeux. C'est Thorn qui reprit la parole.
« Le grand voisin a beaucoup d'humour. Il aime ces petites taquineries qui égayent la vie et... »
Mitch laissa entendre un bruyant difficile à interpréter. Thorn s'éclaircit la voix et enchaîna. « On va juste vous laisser 5 minutes pour nous donner 2 choses, la pierre et la boîte noire de Balaïna. » Sim tenta de dissimuler sa surprise. Il jeta un coup d'œil à Tony Cyrano qui se balançait d'un pied sur l'autre, gêné devant son ancien patron. Ainsi, ces canailles pensaient toujours à la boîte noire. Ce que le professeur ne savait pas, c'est qu'ils y pensaient tellement que 90 chercheurs étaient penchés sur la question depuis 5 ans, sous la direction de Cyrano. C'était l'obsession de Joe Mitch. Il voulait le secret de cette boîte noire. Thorne demanda à Loche de compter 5 minutes. Loche prit un air ennuyé et fit signe à Chatoun qui se rongeait à distance l'ongle du petit doigt. Aucun des deux ne savait compter jusqu'à 5. Ils implorèrent Pelou du regard. Celui-ci se mit à compter au rythme des secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 4 personnes interrogées regardaient droit devant elles. Toby se tourna juste à l'instant vers le corps du docteur Peel accroché au porte-manteau. Il bougeait encore. Les 5 minutes passèrent très vite. Personne ne disait un seul mot. Loche s'aiguisait les dents les unes contre les autres. Il sentait qu'il allait devoir passer à l'action. L'impatience lui mettait une mousse blanche au coin des lèvres. À la fin du temps réglementaire, Mitch grogna. Thorne traduisit en simultané. « Eh bien, on va chercher nous-mêmes. » Il hurla. « Fouillez-les !» Comme Chatoun ne savait pas par qui commencer, il mordit. « D'abord la verrue !» Chatoun faillit hésiter, mais Zef Clarax avançait déjà. Ça ne pouvait être que lui. Depuis tout petit, il était ça. La verrue, le monstre, le dégueu, la cloque, la pustule, la tache, la fissure ou l'immondice. Zef Clarax souriait. Il avait choisi d'être un monstre étincelant, une pustule ensoleillée, une flamboyante verrue. Toby remarqua que face à l'immonde troupe de Jomitch, Zef avait l'air d'un prince. Chatoun hésita presque à s'approcher de tant de fierté. Il plaqua finalement ses mains dégoûtantes sur Zef et commença à le fouiller. On ne trouva sur lui que la clé de sa maison. Loche le poussa de l'autre côté de la pièce. Maya fit un pas en avant. « C'est mon tour. Est-ce qu'il y a une femme pour me fouiller ?» Quelques ricanements accueillirent la question. Mitch bredouilla. « Minouyuka !» Thorne cria. « Faites entrer, Minouyuka !» Loche sortit juste le temps de faire venir quelqu'un qui devait être dehors à monter la garde. Cette personne eut du mal à franchir la porte. Elle dut se courber beaucoup et rabattre vers le centre ses formes généreuses. Le seul moyen de décrire Minouyuka est de dire que c'était une montagne. À part ça, elle avait un visage assez doux, les cheveux coupés au carré. Elle ne faisait pas peur. Maya lui fit un sourire. Minouyuka s'approcha d'elle et fouilla délicatement ses poches, ses ourlets, ses doublures, avec beaucoup de concentration. De la tête, elle fit non à l'humeur. Maya Lolnes rejoignit Zef de l'autre côté du salon. Minouyuka sortit discrètement, ce qui n'était pas facile pour elle. On fouilla ensuite Toby de la même façon. À la fin, Limmer dit en regardant Toby avec dégoût. « Le pire, c'est que les ordures, ça fait aussi des petits. » Toby répliqua sans réfléchir. « Des petits? Vous n'êtes plus si petits, vous savez. » Limmer mit un certain temps à comprendre, mais Sim Lolnes bondit et donna une grosse claque sur l'arrière de la tête de Toby. Ses cheveux volèrent. Sim cria. « N'insulte pas le monsieur !» Toby redressa immédiatement la tête en tremblant et se précipita dos au mur à côté de sa mère. Maya ouvrait de grands yeux. C'était la première fois que Sim frappait son fils. Tout le monde observait, l'un après l'autre, Toby et son père. Le professeur était en train de perdre la tête. De perdre son âme. Ils avaient gagné. Ce grand savant, cet homme unique, allait s'effondrer à cause d'eux. Maya vit son mari tomber, les deux genoux au sol, la tête dans les mains.
« Je n'en peux plus. J'arrête. Je dirai tout. Je donnerai tout. »
Les yeux myopes de Sim Lolnes pleuraient à chaudes larmes. Le visage de Toby se durcit. « Ne montrez jamais à un enfant son père en train de trahir.